Nous sommes Korg. Abaissez vos boucliers et rendez-vous sans condition. Nous intégrerons vos caractéristiques biologiques et technologiques aux nôtres. Votre culture s'adaptera à nos besoins. Toute résistance serait futile.
Radio, radio, radio phagocyte. Toute résistance est vaine. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à 22h, nous l'avions dit. Et nous allons parler, maintenant nous allons faire ce bilan. On n'est pas encore à la fin, et d'ailleurs justement vous allez pouvoir énoncer la suite du programme de Art et Féminisme qui a commencé le 1er mars, donc c'était mercredi passé. C'était à l'Estime, hein, c'est cela.
Voilà, l'Estime qui est une association de lesbiennes qui est rue de l'Industrie à Genève. Et c'était un événement réservé aux femmes, ce qui a fait bouger les communautés et qui a provoqué moult querelles. Donc nous avons été accusés d'être, entre autres, racistes, transphobes, d'exercer une discrimination envers les individus pourvus d'appendices masculins, ce qui nous a absolument sidérés et décidés à continuer chaque année sur cette lancée jusqu'à ce que ce ne soit plus un sujet d'actualité.
Ces réactions ont-elles eu cours à l'intérieur même de la communauté Wikipédia ou tu dis plutôt vers l'extérieur, vers les personnes, le premier cercle qui était informé de cette soirée ?
Alors sur la communauté Wikipédia, oui, quand on l'a annoncé sur le bistrot, enfin quand je l'ai annoncé sur le bistrot, oui, il y a eu des remous. Et ensuite, il y a eu une personne en particulier qui a eu un comportement assez agressif et qui du coup a été bloquée, interdite de contribuer pendant 2 semaines. Et maintenant, cette personne a un topic ban, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus contribuer sur des sujets autres que ses sujets de prédilection pendant 2 mois, je crois. Et donc finalement, c'est positif au final parce que ça nous a valu le soutien de pas mal de membres de la communauté qui nous ont écrit, qui nous ont assuré de leur soutien, parce qu'ils ont été très surpris de la virulence des propos. Par ailleurs, à Genève aussi, il y a eu quelques personnes qui ont dit qu'elles ne viendraient pas aux événements parce qu'elles ne soutenaient pas les événements qui étaient discriminants. Donc apparemment, c'est un sujet qui est encore d'actualité. Moi, en tant que féministe, je pensais que c'était fini, que ça, dans les années 70, avec le MLF, on avait compris parfois que des personnes qui se sentent discriminées peuvent avoir besoin d'un safe space. Mais non, apparemment, non.
Alors, Sarah, voudrais-tu réagir, puisque justement tu es là, évidemment, en tant que conseillère au Grand Conseil, élue verte au Grand Conseil de Genève, mais également parce que justement tu as lancé cette motion.
Oui, alors c'est marrant, d'abord juste sur l'aspect de non-mixité, c'est sûr que ça crée toujours débat, et dans certains cas, je peux peut-être comprendre que certaines personnes se sentent discriminées. Moi-même, j'ai mis du temps à accepter vraiment ce fait de la non-mixité. Mais alors, par contre, la différence par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à cet événement à l'Estime, c'est que moi, j'ai toujours plutôt participé et même dimanche passé co-organisé un événement non mixte, mais alors qui était non mixte large, donc y compris personnes trans et plutôt sans mexis uniquement. Et voilà, c'était le choix de faire un safe space beaucoup plus large. Après,
peut-être. Alors, oui. Pardon, c'est pas pour.
Non, bien sûr.
C'est précise, cis, mec, cis, ce que ça indique.
Je suis pas toujours très calée en définition, mais mec, cis, c'est un mec en fait qui a été dès la naissance homme de façon définie comme telle et de naissance. Donc, par exemple, une personne trans, donc homme, n'est pas un mec cis.
Voilà, donc ce serait une personne qui serait confortablement installée dans son sexe biologique.
Voilà, enfin, qui a en fait toute sa vie, enfin qui jusqu'à maintenant a accepté le genre qui lui a été attribué à la naissance, qui est le genre homme si on parle de mec cis.
Mmh, ouais. Alors revenons-en justement à la communauté Wikipédia. Alors effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Natacha, il y a eu vraiment une levée de bouclier au moment de cette discussion-là. Enfin, c'est quelque chose de polémique.
Alors, en fait, certaines personnes, oui. Et en fait, si la communauté, au départ, n'était pas tellement pour un événement réservé aux femmes, et on n'avait pas défini le mot « femme », parce qu'on n'a pas envie de mettre des longues étiquettes, ou alors de dire qu'on va baisser les pantalons à l'entrée d'un événement pour vérifier, c'est un peu ridicule. Donc, mais devant la virulence, mais la communauté a bien réagi au final quand même, a quand même, je pense, compris que effectivement parler de ces sujets pouvait mener à certaines attaques personnelles. Donc au final, on s'en sort quand même bien et je suis quand même assez fière de la façon dont ça s'est déroulé. Voilà. Et par contre, en ce qui concerne, moi j'ai toujours fait des événements mixtes. Je n'ai jamais exclu ni demandé. Voilà. Le but des 100 pages, l'association et le projet que nous avons créé sur Wikipédia, c'est de réduire le gender gap. Le fossé des genres. Nous avons 450 000 bios de mecs sur Wikipédia et seulement 75 000 de femmes. Et donc, forcément, ça crée des petits problèmes, des biais. Voilà. Donc, l'idée, c'est de réduire ce gender gap et les événements sont mixtes. Yann est là, nous sommes en parité complète ce soir, représentant la communauté Wikipédia. Mais là, c'était une association qui nous hébergeait. Et donc, moi, je ne vais pas dire aux gens comment ils doivent... qui ils doivent recevoir dans leur intimité. Donc dans une association, je ne vais pas imposer mon point de vue du dehors. Je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Par exemple, s'il y a un match de foot non mixte, je ne vais pas absolument vouloir inscrire ma fille dans l'équipe, puisque a priori c'est non mixte. Et ça, ça ne pose aucun problème, les matchs de foot qu'avec des mecs qui jouent sur le terrain. Ça n'a jamais posé aucun problème.
Absolument. Yann, tu voulais intervenir. Tu voulais
compléter. Oui, l'histoire de la problème de la disparité des genres sur Wikipédia est une longue histoire. En fait, pour rappeler le problème principal, c'est qu'il y a moins de 10% des contributeurs qui sont des femmes. Donc, il y a une immense majorité. Et ça, évidemment, ça crée un problème dans les sujets traités. C'est une des conséquences. Comme il y a moins de sujets sur les femmes et pour les femmes qui sont traitées, il y a moins de femmes contributrices et effectivement, ça, c'est un cercle vicieux, quoi. Et donc, c'est un peu l'objectif de l'association. Ce que je veux dire, c'est que ça, en fait, ce biais a des conséquences beaucoup plus larges que le seul strict sujet des femmes, mais sur beaucoup de sujets de société, en fait, les points de vue sont très centrés sur un point de vue masculin ou sur un point de vue technocentré. Et à mon avis, c'est une conséquence de la disparité des genres dans le nombre des contributeurs.
Donc, implicitement, on se prive de tout un panel d'observations et de ressources du simple fait de n'être obnubilé que par cette vision machiste, sexiste de la société.
Oui, exactement. Effectivement, Yann. Bon, c'est une chose qui est intéressante, c'est que c'est une chose qui évolue. Ce qu'il faut dire, c'est que la fondation Wikimedia, donc aux États-Unis, a depuis plusieurs années lancé un programme pour essayer de réduire ce fossé donc des genres. Alors pour l'instant, ça n'a pas un succès. Enfin, je peux dire qu'il y a encore un an ou deux, c'est un programme qui n'a pas eu du tout le succès escompté parce qu'ils espéraient atteindre 25%. De contributeurs femmes. On en est encore très loin. Donc, c'est beaucoup plus difficile en fait, que prévu. Ce qu'ils sont aperçus, c'est qu'en fait, il y a une atmosphère qui décourage en particulier les femmes à contribuer. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à cette question-là.
Natacha ?
Je prends par exemple aujourd'hui, on avait une contributrice qui était sur son article, qui contribue et tout d'un coup elle voit plein de bandeaux arriver, alors elle dit bon ben je peux même pas contribuer tranquillement et tout d'un coup j'ai toutes ces remarques qui arrivent. Et ce qu'on a besoin de faire en fait, parce que ça c'est normal, c'est la participativité de la construction des articles. Donc si un sujet est intéressant ou qu'il est dans le collimateur, tout le monde se met dessus. Et puis bon, bah, quand on a l'habitude, on sait, bah, voilà, il y a des corrections qui arrivent et ce n'est pas mon article, l'article est dans le domaine public. Et donc ce qu'on a besoin, c'est d'accompagner les personnes qui se sentent déstabilisées par l'arrivée de points de vue et de critiques de l'extérieur. Voilà. Peut-être que les personnes étiquetées comme femmes, peut-être pas simplement les femmes cis, mais se sentent plus vulnérables par rapport à la critique externe et la norme. Voilà. Mais sinon, nous, ce soir, on a une trentaine d'articles créés, 340 articles modifiés, plus de 32 téléversements de photos et de médias sur Commons, donc c'est déjà pas mal. Et tout n'a pas encore été comptabilisé, donc on est quand même... contents et contentes. On a eu des articles sur l'histoire LGBT suisse. On s'est évidemment, à travers la participation à l'Estime, attelé à écrire quelques articles sur les lesbiennes et l'art. Mais pas seulement. On a été aussi au musée d'art et d'histoire, à la bibliothèque du musée d'art et d'histoire. Et on a pu accéder à la bibliothèque. Ça, c'était très sympa. Et c'est effectivement financé par Wikimedia Suisse qui nous a payé gentiment à manger pour qui nous a sustenté pour toutes ces opérations et aidé au niveau de la communication.
Ouais, alors on va bien sûr revenir encore sur le bilan et puis ensuite encore sur le programme. Mais avant cela, voilà, peut-être Sarah, voudrais-tu réagir aux propos qui ont été tenus?
Oui, alors sur cette histoire de gender gap qu'on retrouve sur Wikipédia, finalement, il est juste la preuve de à quel point c'est ancré dans toute la société. Je veux dire, déjà dans l'histoire qu'on nous apprend à l'école, ben, on voit que c'est toujours des héros ou en tout cas des personnes importantes masculines, alors que toute la frange féminine et féministe a été un peu mise de côté. C'est aussi ce qu'on peut rencontrer dans la politique, où par exemple au Grand Conseil, on est à peu près un quart de femmes uniquement. Et puis c'est aussi, et c'est la raison justement aussi de ma motion, le problème dans l'espace public, c'est que l'espace public, il devient plus, pour reprendre tes termes, un safe space pour toute une catégorie de personnes, c'est-à-dire notamment, et ça c'est les sondages qui le prouvent, les femmes et les personnes LGBT ou perçues comme telles, hein, c'est intéressant, c'est pas forcément le fait d'être LGBT, mais le fait d'être perçue comme telle qui des fois malheureusement attire certaines agressions. Enfin, agressivité de la part d'autres personnes. Et cette occupation de l'espace public, justement, par des potentiels agresseurs, par des harceleurs, ben c'est, voilà, c'est juste le sexisme actuel qui fait qu'il y a une catégorie de personnes qui est majoritairement reconnue comme ayant le droit d'occuper ces espaces, qui finalement va tout mettre en œuvre pour faire en sorte que soit ils dirigent eux l'espace, soit ils essayent de montrer aux autres personnes qu'elles sont malvenues ou pire, qu'elles sont un petit peu à leur botte, et c'est voilà, juste une façon d'asseoir la virilité. C'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant vraiment agir sur cette thématique. On a vu que c'était mondialement reconnu comme problème, ce problème de harcèlement de rue, mais finalement ça pose le problème de quelle place des femmes et des personnes LGBT dans l'espace public et comme dans toute la vie. Et il faut que ce soit plus égalitaire, et pour ça il faut que les personnes arrêtent de se faire harceler.
Alors tout à fait, on va rester un petit moment là-dessus si tu veux bien, parce que justement voilà, on a fait une première partie du bilan sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard, mais voilà, on va se fixer un petit moment sur cette motion. Alors en quoi, enfin on a bien compris ici en quoi elle était urgente, mais en quoi effectivement, précise-le, en quoi elle l'est-elle et quelles ont été les réactions principales au moment où cette motion a été, ou au moment où tu as opéré cette motion, parce qu'on a évidemment, tu vas nous parler certainement du député MCG Ronald Zacharias qui a effectivement parlé de mesures crétines.
Alors, en quoi elle est urgente? Elle n'est pas plus urgente qu'elle aurait pu l'être déjà il y a 10, 15, 20 ans. Voilà, malheureusement, les choses mettent du temps à bouger. C'est assez récemment quand même qu'on commence à parler de ce problème comme d'un vrai problème. Et c'est fou, c'est que les choses sont tellement intégrées que finalement, même une femme qui se fait régulièrement harceler met des années à se dire « Tiens, ça n'est pas normal en fait, c'est pas une fatalité et je dois pouvoir lutter contre ça et je dois surtout ne pas avoir à subir ça ». Et donc ça crée voilà, aussi ce problème de l'intimidation qui est faite sur les femmes. Et puis l'accueil de ce texte a été aussi accueilli de cette façon-là, avec certains hommes cis, blancs, hétérosexuels, évidemment riches également, puisque ça rajoute à leur sentiment de toute puissance, ça a été d'intimider immédiatement, notamment moi, auteur de ce texte, mais toutes les autres personnes qui l'ont signé, en parlant de mesures crétines. Alors pour l'instant, les mesures, elles sont pourtant pas très définies. Hein. On demande qu'il y ait des campagnes d'information, de prévention, en lien avec les associations concernées, parce que ça, c'est quand même essentiel de parler avec les personnes qui connaissent bien le terrain, mais que ces campagnes d'information soient faites. On peut imaginer aussi quelque chose par le biais de l'école, quelque chose dans les transports publics, et puis aussi sensibiliser les intervenants de rue et de la sécurité à cette problématique. On constate que la proportion de personnes qui subissent ce harcèlement de rue est énorme, et que par contre la proportion de personnes qui va porter plainte est minuscule, ce qui prouve que les personnes ont peur d'être mal reçues, mal accueillies ou incomprises, Et il y a aussi un travail à faire là. Donc voilà, Ronald Zacharias, bon, j'aime pas trop parler de,
effectivement,
du MCG, j'ai pas, ouais, envie de leur faire de la, absolument, pub, mais a juste finalement prouvé à quel point ce texte était nécessaire.
Voilà, c'était avec juste ses pour prendre cette espèce, ouais, de température un petit peu turbide comme ça. Turbide, pardon. C'est ça que je voulais qu'on le cite. Pardon, Natacha, tu voulais.
Moi, je trouve que ce sont des mesures qui sont nécessaires. J'ai eu moi-même avec mes filles et mon fils un événement l'année dernière où on a été agressé par quelqu'un qui était un peu éméché. Et ce qui m'a beaucoup choquée, c'est, bon, non pas le comportement de cet individu qui avait visiblement un problème à ce moment-là, mais le comportement citoyen des personnes autour. Et je crois que les mesures de prévention, elles passent par une incapacitation, ou empowerment en anglais, des personnes par des communications claires. Par exemple, si on avait des stands de sensibilisation de la Slot Walk dans chaque fête à Genève, où les victimes puissent aller parler, et puis que ce soit vraiment affiché de manière claire, voilà, le harcèlement n'est pas toléré, ça commencerait à faire bouger les mentalités. Parce que pour l'instant, quelqu'un qui se livre à du harcèlement n'a absolument, je veux dire, c'est une autoroute. Et pourquoi les victimes ne portent pas plainte ? C'est pas tout le temps parce qu'elles ont peur, c'est parce que ça ne sert à rien. Il n'y a que 8% des plaintes qui aboutissent en cas de violence domestique. On sait très bien qu'on va perdre du temps, qu'on va recevoir plein de on va dire de mansplaining quelque part, de m'explication, et qu'au final, la personne, il ne va rien lui arriver. Donc c'est un petit peu décourageant à ce niveau-là. Donc la solution passe par la prévention, l'éducation, mais l'éducation des personnes dans la rue, je dirais.
Quand on parle d'éducation, effectivement, on pourrait parler du champ sémantique, parce que là, effectivement, on a une personne qui voilà, juge ces mesures de crétine. On sort complètement du rationnel. D'une certaine manière, on empêche l'argumentaire à suivre, puisque crétine, c'est finalement un jugement qui est définitif, d'une certaine manière, et qui ne peut pas être contre-argumenté. Et alors, ce que je me demandais, c'est, y a-t-il eu une réaction par rapport à ça au sein du Grand Conseil ? Est-ce qu'au Grand Conseil, alors tu as dit déjà la proportion de femmes qui y étaient, mais est-ce qu'on trouve quand même matière à ce que des groupes de femmes puissent justement revenir sur ces points-là, et notamment les champs sémantiques ?
Alors, pas spécifiquement. Il y a, en tout cas, au sein du Grand Conseil, pas de groupe féministe ou quoi que ce soit. Après, par contre, sur l'échiquier politique, évidemment, on remarque que c'est majoritairement à gauche que les femmes sont bien représentées. Et je le dis avec fierté, notamment chez les Verts, où notre groupe est complètement paritaire, alors que c'est par hasard. Enfin, on a la parité sur nos listes, mais après, pas au niveau de l'électorat. Et on voit que ça s'est fait quand même. Donc, je pense que les Verts ont fait un super boulot pour une représentativité paritaire, mais pas de groupe féministe. Après, le combat qui doit se faire aussi de notre propre initiative, nous les femmes, mais même sur ces questions-là, on a de loin pas toutes les femmes qui sont d'accord de travailler. Le harcèlement de rue, par exemple, ce texte n'a pas été signé par toutes les femmes du Grand Conseil, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, malgré qu'elles soient femmes, et donc potentielles ou même sûrement une fois ou l'autre était victime de harcèlement de rue, bah, continuent de penser que c'est normal et que soit elles se remettent elles en cause dès qu'un événement arrive, soit elles considèrent que la société est faite ainsi et qu'il ne faut pas la changer. Et c'est vraiment dommage. Après, je ne serais pas forcément pour créer un groupe féministe en tant que tel au Grand Conseil. Je pense que c'est à nous, femmes, si on a envie de porter des sujets, de nous mettre ensemble et de faire nos textes et ensuite de les faire accepter dans nos différents groupes. Et il y a des groupes où ce serait vraiment intéressant que les femmes du groupe, il y a malheureusement un groupe où il n'y a aucune femme, mais les autres groupes ont quand même quelques femmes, bah, quand c'est des groupes qui sont plutôt, disons, d'obédience assez machiste, bah, ce serait bien qu'elles puissent, avec le soutien des autres femmes, faire un travail à l'interne de leur parti.
Natacha, tu voulais réagir ?
Mais ce député qui a finalement eu ce terme de crétine, est-ce qu'il a eu une sanction, quelque chose comme ça ? Parce que c'est sidérant. Effectivement, comme disait William, ce n'est pas un argument. Et là, il y aurait matière quand même à adopter une sémantique correcte, parce que c'est une attaque personnelle quelque part. Parce que si la mesure est crétine, ça veut dire que les personnes qui ont formulé la mesure sont crétines. Et donc là, on est dans le registre du député polonais européen qui, le 1er mars, disait bah, « c'est normal que les femmes sont moins payées, elles sont plus petites, moins fortes et plus faibles que les hommes ».
Alors non, aucune sanction évidemment. Il a en plus tenu ses propos dans la presse et pas dans l'enceinte du Grand Conseil. Si ça avait été dans l'enceinte du Grand Conseil, il se serait fait remettre à l'ordre, mais il n'y aurait pas eu de sanction. Mais on constate que de toute façon, les sanctions sont souvent inexistantes pour ce genre de domaine. Il y a quand même quelques mois maintenant, ou peut-être une année, un autre député qui a trouvé rigolo de traiter certaines femmes du Grand Conseil, donc moi et une collègue à moi, de prostituées sur Internet, par exemple. Et voilà, tout le monde a rigolé et les gens n'ont pas eu l'air de trouver qu'il fallait faire quelque chose pour empêcher ça. Il y a aussi, une fois, on discutait dans une commission par rapport à une pétition de problématique de viol, bon, de manière indirecte. Et puis finalement, quand j'ai quand même jugé qu'il était bon de rappeler que le viol n'était pas l'apanage d'une partie de la, enfin d'une, disons d'une culture ou d'une autre, mais qu'elle était aussi très présente en Suisse et dans tous les milieux sociaux. Et la fois d'après, cette personne est venue me saluer en me disant « Oh, j'ai violé personne aujourd'hui !» Et voilà à quoi on fait face au quotidien, au Grand Conseil.
On part de loin. Pour,
ouais. Oh oui, de très loin.
Ouais, justement, j'allais demander la situation à Genève, selon toi, où est-ce qu'on en est, vers quoi on va. On s'aperçoit qu'il y a quand même... Alors voilà, on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais on en a déjà parlé à la radio. On avait parlé du squat de Prénaville à l'époque, où, souvenez-vous de ces événements, où des membres de la bande des pharaons, donc des motards, étaient venus, avaient pénétré dans le lieu, avaient violé deux jeunes filles, étaient repartis, étaient revenus, les avaient reviolées et hop. Et puis ça a été un très très long moment avant qu'un procès ait lieu et qu'une décision soit prise. Où est-ce qu'on en est maintenant, selon toi ?
Alors on en est sur la protection des victimes de viol. Au niveau Genevois, on est quand même déjà un petit peu plus avancé. Ensuite, il y a un gros travail qui doit être fait au niveau fédéral pour aussi élargir ces définitions de viol. Et ça, heureusement, à Genève, on a réussi à faire que le Grand Conseil vote une résolution à Berne. Donc, c'est-à-dire que le canton de Genève demande aux personnes, aux chambres fédérales, de réfléchir à cela. Et c'est en bonne voie. Mais juste que le viol ne soit plus, pour être vulgaire, une bite dans un vagin, mais que le viol est quand même, peut avoir des définitions beaucoup plus larges. Et ça permettrait aussi que ce qui est maintenant considéré comme agression uniquement soit considéré comme viol, mais ça permettrait aussi surtout que les personnes LGBT qui subissent aussi des viols soient également mieux protégées par ces lois. Mais il y a encore beaucoup de travail aussi d'éducation et de prévention à faire.
Ça nous permet de saluer Viol Secours, l'association qui est justement née de ces événements du squat de Prénaville, et également, je cite ceux avec lesquels on a déjà pu travailler radiophoniquement, et également Dialoguer qui fait un travail énorme, mais pas que, l'Estime également, on a déjà un petit peu parlé avec eux. C'est-à-dire que la société civile s'organise tout de même, on a quand même une prise de conscience, j'ai l'impression, et peut-être que c'est justement dans ces moments non mixtes que se prépare la riposte, que se construit la riposte, j'imagine. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça, si tu as envie
Alors,
de répondre à ça?
Ouais, je vais essayer de répondre. Oui, dans des événements non mixtes, je pense qu'une certaine riposte peut se préparer, du simple fait que des personnes peuvent parler sans avoir peut-être peur d'être jugées, sans être aussi interrompues, parce que finalement, c'est souvent un problème qui est... Voilà, exactement le même que tout le reste, une espèce d'intimidation machiste qui fait que les hommes ont souvent envie d'interrompre les femmes quand elles parlent de choses qui sont pourtant très importantes. Mais sinon, je pense que la société civile fait un super travail. Et personnellement, moi, je suis très, très touchée par la thématique de la marche des salopes. Et puis, je suis très contente qu'il y ait une association qui soit très vivante avec ça à Genève. Et je pense que ça a fait quand même... bien avancé déjà les esprits, parce que toutes les autres associations qui sont là depuis longtemps font un énorme travail depuis vraiment longtemps, et maintenant ça faisait encore un élément supplémentaire. Et je pense qu'à chaque fois qu'on aura une nouvelle association qui prend les choses avec un autre aspect, et ben ça pourra toucher plus de gens, et à chaque fois on élargit, et j'ose espérer, mais il y a des gens malheureusement qui luttent contre ça, mais j'ose espérer qu'un jour on n'aura plus besoin de se battre.
Ouais, la slotwalk.ch pour les nommer. Effectivement, c'est un grand travail. Tu l'as dit tout à l'heure, souvent, les personnes les plus touchées sont également des personnes déjà dans des situations délicates. Est-ce qu'on voudrait dire quelques mots de la notion d'intersectionnalité, justement, qui, j'imagine, est également présente dans Wikipédia. Est-ce que tu veux commencer ? ou Natacha.
Bon, la notion d'intersectionnalité, c'est qu'une personne peut ajouter des vécus et des couches de discrimination par rapport à plusieurs angles, parce qu'on est une femme, parce qu'on est LGBT, parce qu'on est de couleur non blanche, parce qu'on est précarisé. Et donc, le féministe intersectionnel essaye de prendre en compte toutes ces visions différentes. Aussi l'androcentrisme, qui est important. Et voilà, c'est ce qu'essaye de prendre en compte le féminisme intersectionnel, qui est parti aux États-Unis avec les mouvements civiques, où des femmes se sont rendues compte qu'elles étaient acceptées dans le mouvement des droits de vote pour les femmes, mais elles ne pouvaient pas participer à la manifestation à la même place parce qu'elles étaient noires. Donc de là est partie toute une série de mouvements qui disaient il faut qu'on construise notre propre pensée à l'extérieur pour pouvoir revenir avec des arguments une position défendable, parce que sinon on est coupé par des insultes du type de crétine et ça met en état de choc et on ne peut plus continuer.
Ça, veux-tu?
Oui, juste pour revenir d'abord sur le terme délicate qui sur le coup m'a un peu choquée. Je pense qu'il faut justement pas penser que parce qu'on est une femme, parce qu'on est noire, parce qu'on est LGBT, parce que on est peut-être plus discriminé, on est dans une position délicate, et je trouve qu'au contraire, ce serait rajouter encore à ce sentiment de puissance des catégories qui ne sont pas concernées par ce genre de discrimination. Mais par contre, je pense que autant chaque groupe discriminé doit pouvoir organiser sa lutte indépendamment, parce qu'il faut aussi pouvoir cibler ensuite la lutte contre les discriminations en fonction de ce qui est vraiment clairement ressenti. Par exemple, même rien qu'au niveau du racisme, on ne va pas du tout rencontrer les mêmes attaques au niveau du racisme anti-noir qu'au niveau du racisme anti-musulman, par exemple, ou toutes les facettes, malheureusement, je crois qu'au niveau de la haine, l'imagination ne s'arrête jamais, c'est bien dommage. Mais je pense que c'est important que chaque groupe puisse mettre en avant les problématiques auxquelles ils sont concernés et ensuite combattre. Mais après, il faut que toutes les catégories discriminées arrivent à unir leurs forces pour combattre ensemble, et une fois que chaque personne a défini ce dont elle avait besoin, que chacun, chacune cède et lutte ensemble de manière unie. Et je trouve d'ailleurs, j'ai vu récemment justement le discours d'Angela Davis à la marche des femmes, et j'ai trouvé, c'est marrant.
Je m'étais préparé justement ça.
Tu vois, ça m'a fait penser.
Pareil.
Et vraiment, j'ai trouvé ce discours vraiment magnifique, et justement, c'était un discours de réunissons-nous et luttons tous, tout ensemble, contre toutes les discriminations subies. J'ai trouvé ça magnifique. C'était un très beau discours.
Oui. Alors, il y avait une exposition d'Angela Mardulo, enfin, elle est toujours actuelle, au Centre de la photographie Genève, qui appelle à une Feminist Energy Crisis, donc une espèce de renouveau d'une force combative qui permettrait de lutter ensemble. Et ça veut dire aussi un renouveau théorique, des réflexions nouvelles dans le champ des féminismes, pour pouvoir envisager de continuer ensemble, en toute sororité, je dirais.
Du coup, je me permets de dire un mot aussi. Yann, tu voulais dire des choses?
Oui, j'aimerais faire un parallèle avec ce que vous disiez, avec l'atmosphère qui a lieu en ligne, sur Wikipédia en particulier. En fait, il y avait souvent des agressions sexistes sur Wikipédia. Il y a un certain laisser-faire, en fait, jusqu'à il y a encore peut-être un an ou deux. Et en fait, j'ai l'impression que certain nombre de personnes et ont pris les choses à bras le corps, et les choses sont en train de changer. En particulier, depuis 2 ans, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont été bannies de Wikipédia pour avoir un comportement sexiste en ligne en particulier, ou en dehors, enfin, d'avoir un comportement inacceptable. Et donc il semble qu'il y a une chose en train de changer. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle entre ce qui se passe ici à Genève et ce qui se passe ailleurs en ligne sur Wikipédia.
Alors justement, pour parler d'ailleurs, oui, Pierre, tu avais un commentaire à ton tour.
Oui, peut-être, presque. Vraiment. Non, moi, je trouve que justement, il y a des choses, on voit qu'il y a une énergie qui est en train de surgir dans tout ce domaine-là. Moi, j'espère aussi que des actions comme cette motion dont nous parlions tout à l'heure nous mènent aussi à positionner sur l'éducation, l'éducation. Parce que on éduque pour finir nos enfants quand même avec une partie de matériel. Moi, c'est quand même mon domaine en tant que ludothécaire. Je ne sais pas si vous êtes retourné dans une boutique de jeux, une grande surface de jeux. Mais c'est terrible. Non, mais il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer. Je veux dire, les étagères sont roses quand il y a des poupées, des dinettes, des planches à repasser, des fours. Et elles sont bleues quand il y a des établis, des camions, des vaisseaux spatiaux, etc. Je veux dire, les étagères elles-mêmes. Donc là, on parle même pas d'un design de boîte où l'éditeur pourrait se dire « Oui, mais ceci, on trouvait cette couleur jolie. » Ah ah ah, bon, d'accord. Mais là, on est carrément dans une... Il y a un magasin en particulier auquel je pense, je ne vais surtout pas le citer, mais quoi que ça pourrait être une question aussi...
Tu fais comme tu l'entends. Non, mais...
ça me fait trop mal, quoi. Okay. Mais franchement, tu rentres, tu as le coin un peu pastel pour les bébés. Tu continues, tu arrives dans le coin rose. Tu continues et tu pars dans le bleu pour arriver dans un truc un peu vert pour les jouets d'extérieur. Et ensuite, tu arrives aux caisses où tu as tous les petits goodies un peu mélangés, là. Mais, je veux dire, les jeux... présentés comme ça, sont tellement genrés, et c'est tellement reste dans ton coin, toi, aime le rose, aime torcher le cul de ton gamin, et puis préparer à manger pour ton bonhomme, quoi. C'est ça le message. À part ça, un de nos rôles de ludothécaire est d'essayer de trouver du matériel qui ne soit pas dans ces couleurs-là. Mais après, on voit, et d'éduquer aussi les parents. Moi, j'ai vu une maman qui a sorti manu militari son petit garçon de 3 ans, peut-être, ouais, à peu près 3 ans, de l'espace dinette bébé, en lui disant « Mais t'es un garçon, t'as rien à faire là ». Après, voilà, je vis aussi dans une... Quoi, je travaille dans une magnifique communauté qui est les Avanchais, qui est une sorte de village gaulois absolument indéfinissable, qui a un côté absolument génial, mais qui a un niveau socio-culturel, économique qui est hélas très très faible, et beaucoup de gens n'ont pas accès à toute la réflexion qu'on peut avoir. Je veux dire, rien que pour aller sur Wikipédia, il faut bêtement avoir un ordinateur, puis savoir écrire, savoir entrer, tout ça. Faut savoir aussi que dans les communautés non helvétiques, il y a quand même beaucoup... C'est assez terrible parce qu'on voit des hommes de deuxième génération qui ont un boulot... de base, qui ne gagnent pas énormément, qui en Suisse justement ne trouvent pas une seule femelle pour s'accoupler avec, et qui repartent au pays chercher une jeune fille toute perdue, qui a pas forcément eu accès à des études, qui la ramène ici, et cette femme se retrouve avec des enfants, avec son seul et unique but dans la vie, c'est de pouvoir avoir des enfants, en ayant cru accéder à la richesse, parce qu'en Suisse, tout le monde est riche. Je veux dire, c'est un fait accompli. Je veux dire, on le sait tous. Hein. Tout cela autour, vous le savez bien. Non, mais voilà, c'est ce qu'elles ont cru au début, et elles se retrouvent là. Elles ne sont pas analphabètes, mais en tout cas, elles sont souvent illettrées, non francophones. Et clairement, elles ont été éduquées dans l'idée d'avoir des enfants, de s'en occuper. Et moi, je me retrouve avec ces dames dans ma ludothèque. Et ben voilà, tous les beaux mots compliqués qu'on a dit ce soir, moi, je... Non, il n'y a pas accès. Mais qu'est-ce que je... C'est très difficile. Et justement, quand elles vont essayer d'acheter ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elles vont se trouver? Elles vont se trouver dans un magasin ultra genré où on va lui dire rose, bébé, dinette, fille... bleu garçon, et on ne va jamais lui montrer autre chose que ça.
Sarah, tu voulais réagir?
Merci. Oui, je trouve vraiment intéressant cette problématique avec les jeux. Et en fait, c'est même un double cliché de genre, parce que tu dis le tracteur va être bleu, donc sous-entendu, on doit déjà juger que parce que c'est bleu, c'est pour les garçons, et donc le tracteur sera pour les garçons. Et je trouve, voilà, vraiment, ça s'ajoute par strates. Mais cela dit, j'avais lu un article d'une étude faite par je ne sais plus qui, malheureusement, C'était il y a un long moment, mais qui m'avait beaucoup marqué. Et en fait, qui racontait que la génération plutôt de mon enfance, et d'ailleurs c'est vrai, je l'ai vécu, il y avait plutôt eu cette mode de faire des jeux unisexes, les Playmobil, les Lego. Et justement, c'était quelque chose que les gens mettaient en avant. Ah, ça c'est super, ça c'est un jeu qui convient à tous les enfants. Et c'était vraiment intéressant. Et je ne comprends pas qu'on ait pu régresser autant. Alors oui, évidemment, pour des questions commerciales, parce que si on crée des jeux différents pour chaque enfant, bah, ça va faire qu'il va falloir toujours racheter les jeux. Mais je trouve quand même fou que la société, à un moment donné, a réussi à dire « Ah, c'est super, faire des jeux unisexes, c'est ce qu'il faut, c'est bien. » Et puis que juste pour gagner plus d'argent, on a réussi à réintégrer dans l'idée de toute la société que non, il fallait des jeux genrés. Moi, je trouve ça hallucinant.
Oui, alors tu vas répondre et puis après on reviendra juste. Parce que tu m'as anticipé, Pierre, mais c'est très bien.
Je suis désolé.
J'avais deux dernières questions pour conclure et faire la transition vers le jeu. Voilà, de la motion au jeu. Et tu m'as anticipé. Alors j'avais encore ces deux petites questions, mais réponds d'abord et puis ensuite je reviendrai un tout petit poil en arrière.
C'est un ajout en plus, parce que ce qui est assez terrible. Alors, comme tu dis très 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 bien, on est dans une démarche purement commerciale. J'ai des voisins nous ont proposé, nous on a trois filles. Nous ont proposé le petit vélo de leur fille parce que le deuxième, c'était un garçon. Et le vélo, ils l'avaient acheté rose. Donc, ils ne pouvaient pas le donner à leur garçon. Ça, ce n'était pas possible. Donc, c'était rose. C'était un vélo Barbie, je crois. Hein. Donc, pour les poupées mannequins. Voilà. Donc, on est aussi dans une image de la femme qui est assez intéressante. Là. Mais j'en ai pas à la ludothèque, d'ailleurs. Je n'ai pas d'armes non plus parce que c'est hors de question. C'est une zone de paix chez moi. Donc, pas d'armes jouets. Mais ce qui est terrible encore plus, c'est qu'on parlait de marques comme Playmobil ou Lego qui, aujourd'hui, sortent des boîtes roses. Rose avec... Alors, il y a le château des dragons pour les garçons et il y a le château des princesses pour les filles. C'est terrible. Moi, si j'emmène mes filles dans un de ces magasins, elles vont d'abord foncer sur le château rose pour ensuite se rendre compte qu'il y a des dragons dans les autres. Puis comme elles aiment bien les dragons, voilà, elles vont partir plus là-dessus. Heureusement, mais...
On va parler après de Diamonac, j'arrive pas à le prononcer, Diamoniac et du pirate, tu sais, des jeux de cartes, ouais. Qui est le même, mais en version rose et en version pirate, justement. Natacha, vas-y.
Oui, mais c'est le géographe Yves Rébaud aussi qui disait, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais la genrification des garçons, elle a peut-être lieu un peu plus tôt. Et les attaques violentes envers les petits garçons se font plutôt et les obligent un peu à se positionner en gare comme ça, qui ne sont pas influençables et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est faire violence aussi aux garçons que de les obliger à aller vers des jeux, des espaces. Voilà. Quand ils arrivent dans l'école, il y a une grande place dévolue au foot en général et il n'y a pas de place adjacente équivalente pour les filles. Donc tout l'espace dans une ville...
Si, il y a Marelle.
Oui, mais c'est petit, c'est plus petit.
La centralité, donc, c'est le terrain de foot.
Voilà. Et si vous regardez, en général, ici, en Suisse, on a par exemple les complexes sportifs municipaux qui sont construits les uns à côté des autres. Donc vous regardez l'espace dévolu au terrain de foot, où il y a 10 mecs qui jouent sur un terrain, puis à côté, il y a la piscine mixte, qui est en général beaucoup plus petite et surpeuplée. Donc tout ça, c'est une construction qui inconsciemment va influer aussi dans l'inconscient d'un petit garçon. Et s'il se positionne et qu'il veut sortir de cette genrification, là, il est tagué comme LGBT et là, il va subir cette violence genrée de façon frontale. Donc, cette genrification, elle fait souffrir tout le monde, quelles que soient les étiquettes à coller. Voilà. Après, moi, j'avais un petit groupe de filles pour art et féminisme qui voulaient proposer un jeu de pêche Barbie demain, qui consiste à amener sa Barbie demain, à la pendre à une ficelle et à détruire ce symbole sexiste en rigolant, en la peignant ou en l'habillant. On n'est pas obligé de la détruire, mais en s'attaquant au symbole et à la construction de ce symbole sexiste qui est la Barbie. Voilà.
Ça aura lieu demain ?
Ah ben, s'il y a des petites filles, des petits garçons qui veulent venir jouer à pêche Barbie, on le fera, ça c'est sûr. Mais il faut emmener sa Barbie un petit peu dans un but... destructeur, on va dire, voilà. Et c'est vrai que c'est ma fille qui jouait à pêche Barbie, on n'a longtemps pas compris pourquoi elle cassait sa Barbie, mais pour finir, voilà, maintenant on les achète d'occasion, et puis comme ça, le résultat est parfois artistiquement très probant.
Pierre.
Ça va plus loin pour les petits garçons, je trouve, encore plus. On le voit très fort dans notre entourage, même, où, pour finir, des parents vont dire... Ah là là, j'en peux plus, il court dans tous les sens, mais tu comprends, c'est un petit garçon. C'est normal, ils courent dans tous les sens. Vous, vous avez de la chance, vous avez trois filles. C'est bon, elles sont tranquilles. Voilà, c'est... Dites-il, je veux dire, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Non, après, c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser dans le parti pris qu'on a dans notre famille. Moi, je suis beaucoup plus au foyer que madame. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de paternalisme pour finir que moi, j'amène quelque chose à mes filles tout en ayant le rôle de madame, je veux dire, parce que clairement, on est très, très, très inversé dans notre couple où c'est madame qui ramène de quoi manger. Moi, je ramène les clopinettes qui permettent de mettre un peu de beurre dans les épinards, c'est tout. Mais sinon, l'essentiel du temps durant la semaine, c'est moi qui m'occupe des filles. Bien que là, c'est moi qui suis là et madame qui est à la maison avec le reste de la famille. Spécial, mais c'est vrai que des fois, moi, je me retrouve dans cette difficulté en tant que mâle, parce que clairement, moi, je suis un mâle, j'ai été éduqué comme ça, je le suis, et même si je me pose des questions, je le changerai pas rapidement, en tout cas. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais est-ce que c'est pas une sorte de paternalisme que de dire à ma fille comment elle doit réagir face à une situation un peu violente qu'elle a vécue à l'école?
Natacha, tu voulais réagir?
Non, ça peut être du mansplaining, mais déjà le fait que vous posiez, que tu te poses la question, voilà. C'est déjà ça, parce que la plupart du temps, les gens ne se posent pas les questions, hommes comme femmes d'ailleurs. Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est que tu viens beaucoup avec tes enfants, et qu'il y a peut-être d'autres femmes ne se permettent pas ça. Donc je trouve que quand il y a des hommes qui s'investissent comme ça, ils ont beaucoup moins de freins, par exemple, pour laisser leurs enfants courir, vaquer, parce que les femmes, on va tout de suite être « oulala, comment est-ce qu'on va être vu si on ne tient pas nos enfants ?» Surtout si c'est des filles, parce que justement, comme tu l'as dit, elles doivent être tranquilles. Donc comme elles doivent être tranquilles, le poids de la norme sociale est encore plus fort. Voilà, ça c'est quand même...
Quand j'étais une des premières choses qui m'a vraiment fait réagir jeune adulte, c'était le mot hystérectomie. Il contient des choses incroyables, ce mot. L'utérus, l'hystérie, et le fait de combattre la folie qui serait cette espèce d'éclat non consenti aux femmes. Alors que, effectivement, comme vous l'avez dit, les garçons ont largement la mesure de pouvoir exprimer leurs élans. Eh bien, voilà, on peut la soigner parce que c'est donc déjà une maladie. Et puis que voilà, qu'on la nomme hystérectomie. Enfin, c'est un mot qui m'avait... Je crois que c'est là où je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je me pose quand même quelques questions. Il y a un truc qui ne joue pas. De médicaliser comme ça, de comment qu'on psychiatrise des fois les attitudes. Je ne sais pas si ça vous avez envie de réagir par rapport à ça, Sarah.
Je me coince les pieds dans le fil, pardon. peut-être un peu. Bon, quand on regarde l'histoire de la psychiatrie, hein, ce n'est pas toujours très glorieux, malheureusement. Et clairement, l'hystérie a été... Enfin, le mot de l'hystérie a été inventé pour définir ça comme une maladie de femme, comme une maladie de femme qui, tout d'un coup, avait des comportements que la société ne voulait pas accepter. Et c'est quelque chose d'assez regrettable. C'est toujours l'histoire du jugement sur les autres qui pose problème. Et cela dit, je voulais juste réagir sur l'histoire du terrain de foot. Je reviens un peu en arrière, désolée. Mais à mon sens, le problème, ce n'est pas que le terrain de foot soit le plus grand espace du préau ou le plus grand espace du centre sportif. Pas du tout. Le problème, c'est qu'on a défini que le terrain de foot était pour les mecs. Mais pourquoi le terrain de foot ne pourrait pas être juste pour tout le monde? Et puis du coup, si c'est l'espace principal de la cour, mais tant mieux. Faire du foot, c'est chouette aussi. Ça fait du jeu d'équipe, ça fait courir. Enfin, finalement, tout ce qu'on souhaite. Simplement, il faut arrêter de juger que le terrain de foot, c'est l'espace pour les garçons. Puis ce n'est pas le cas. Moi, d'ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et heureusement, j'ai eu de la chance.
Il faut du foot mixte. Il faut des sports mixtes quelque part. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir des équipes mixtes dans le sport pour les enfants et les adultes qui souhaitent.
Alors, nous avions tenté de le faire à l'université ouvrière à l'époque et c'était compliqué. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, hein, parce qu'il fallait avoir une attention constante pour que les mecs, en l'occurrence, ce n'est plus des jeunes garçons, là, c'était vraiment des adultes de 20 à 40 ans, finalement, au bout d'un moment, n'aient pas là aussi des attitudes et puis une déconsidération vraiment de plus en plus prégnante par rapport à leurs collègues femmes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer de manière très empirique au moment où on le faisait à l'université ouvrière. Après, bon, on n'y a pas allé, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça, mais c'est vrai qu'on avait dû, du coup, réglementer de manière excessive, selon en tout cas nos souhaits, les parties et puis vraiment gérer, il fallait qu'une personne soit là pour gérer les attitudes des personnes. Alors, je suppose qu'évidemment, ce n'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, voilà, l'expérience personnelle que j'avais faite par rapport à ça, c'était ça. Je voulais juste en revenir également, alors, bien en arrière là, mais c'était juste pour en revenir à cette motion. Mm-hmm. En fait, bon, déjà, je voulais citer une chose. Quand on a parlé d'Angela Davis, il est vrai que nous avions eu l'occasion de faire un truc assez intéressant. Nous avions traduit et passé un entretien, retransmis un entretien d'Angela Davis en 1972 depuis sa géole, hein, là, en Californie, où elle était donc en prison à ce moment-là, comme militante Black Panther féministe. Et puis, juste derrière, sa dernière contribution concernant les remarques qu'elle faisait, l'observation qu'elle faisait de la société américaine et française, parce qu'elle est prof de français, concernant juste après l'élection de Trump. Et c'était impressionnant de voir que... est-ce qu'il y a une évolution linéaire? Certes pas. Est-ce qu'on a des régressions? Eh bien, force est de le constater. Enfin, c'est assez compliqué de voir, de pouvoir réaliser où on en est, j'ai l'impression. Et nous avions fait l'analogie avec... Nous avions opéré l'entretien avec Amandine Gay, qui est donc, elle, une réalisatrice afro-féministe. Et on l'avait un petit peu interrogée là autour aussi. Et c'était... particulièrement stimulant d'entendre qu'il y avait cette volonté et ses compétences et ses ressources et cet élan vraiment pour aller sur les champs de l'émancipation, mais qu'en même temps il y avait des résistances qui étaient de plus en plus, on les sent radicales également. Alors dans le cadre de ton combat dont la motion fait partie, quel lendemain vois-tu surgir? Quelle va être la suite de cette motion?
Alors, déjà, oui, quand les victimes s'organisent, évidemment, ça fait toujours peur aux personnes qui aiment que les victimes restent des victimes. Donc, je comprends qu'il y ait toujours, évidemment, des levées de boucliers. La suite de cette motion, alors, bon, il faudrait déjà qu'elle soit acceptée. Il faudrait que le Conseil d'État, ensuite, fasse ce qu'on lui demande, qu'ils agissent. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, alors, au-delà de faire ces campagnes de prévention et tous les moyens par lesquels on peut arriver à ça, c'est que l'espace public soit vraiment un endroit qui soit safe pour tout le monde. Et je trouve que c'est assez marrant aussi parce que finalement, c'est peut-être aussi un travail qu'on a à faire nous-mêmes. Alors oui, c'est vrai, on est des potentielles victimes et c'est malheureux, mais il y a un travail de confiance en nous qu'on peut aussi faire. Et moi, je l'ai fait de manière assez bête, mais en fait, j'ai commencé à faire du kickboxing. Et en fait, c'est stupide, ça a l'air de rien, mais sans du tout faire de combat ni quoi que ce soit. Mais ça m'a donné une espèce de confiance en moi qui fait que maintenant, eh ben, j'ai l'impression que j'ose plus prendre de la place dans l'espace public. Et finalement, oui, ça déplaît. Et oui, je subis toujours ce harcèlement de rue de la même façon qu'avant. Sauf que maintenant, je ne pars pas en courant. Maintenant, je me défends un peu plus. Et je trouve que ça, c'est intéressant et il faut pouvoir oser le faire. Et l'aboutissement de tout ça, évidemment, serait que l'espace public soit vraiment égalitaire, totalement.
Ouais.
Et la société aussi.
Absolument. Et alors, y a-t-il un agenda? Comment est-ce qu'on, à quel moment est-ce qu'on saura si, effectivement, les prochaines étapes?
Alors, le texte, le mois prochain, va être envoyé en commission directement. Ensuite, la commission va faire des auditions. Mon souhait, ce serait qu'il n'y ait pas forcément trop d'auditions à faire, puisque ce que j'aimerais, c'est qu'ensuite, le Conseil d'État, tout de suite, commence à travailler avec les différentes associations. Mais si la commission décide d'entendre toutes les associations, bon, ça fera aussi un travail de prévention au sein du Grand Conseil, ce qui est vraiment pas de trop, mais ça fera aller un peu moins vite. Ensuite, il y a quand même aussi à Lausanne maintenant un groupe de travail qui vient d'être créé pour travailler sur ces questions-là, et je pense que ça, c'est vraiment très intéressant, et que Genève aurait aussi tout intérêt à ensuite prendre contact avec ce groupe de travail et voir dans quel sens ça avance. Et eux ont prévu de pouvoir lancer des actions dans le courant de cette année, au plus tard 2018. Et j'ose espérer qu'à Genève, on arrivera à se caler sur cet agenda. Ce serait vraiment une bonne chose.
Et quand tu parles d'action sur le champ public, dans...
Alors, il y a plusieurs
dans
actions.
Dans les écoles, dans...
Voilà. Ensuite, ce groupe de travail doit définir quelles sont les actions à mener. Mais oui, il y aurait vraiment des programmes de sensibilisation dans les écoles, dans les transports publics. Déjà, rien que pour faire aussi cette sensibilisation, mais aussi parce que quand il y a un harceleur, disons, dans les transports publics, et que tout d'un coup, il y a un petit film qui montre qu'il ne faut pas harceler, eh ben, je pense que la personne se sent pour une fois, elle, un petit peu mise comme ça sous le joug de la honte. Et c'est bien d'inverser un petit peu ses rôles. Je pense qu'on peut aussi faire pas mal de prévention. Et ça, c'est une chose qui a commencé à se faire en France sur comment les victimes de ça peuvent se soutenir les unes les autres. Alors, peut-être même en fait, qu'on n'a pas besoin de se soutenir qu'entre femmes. Peut-être qu'un homme peut aussi venir sauver une fois une femme d'une agression de harcèlement de rue. Mais évidemment, on posera toujours la question de est-ce qu'il ne va pas aussi après commencer à harceler ou pas. Mais le simple fait d'aller aider les personnes dans la rue, c'est quelque chose d'assez important. Et maintenant, il y a beaucoup de campagnes qui ont été faites en France pour expliquer que si on constate ce genre d'agression, eh ben, on peut aller puis faire semblant de connaître la personne. « Ah, salut Sylvie, comment ça va ?» et blablabla. Et je pense que ça, c'est un truc ultra important et j'aimerais bien que ce message puisse vraiment continuer de se diffuser. Juste ne pas détourner les yeux, ne pas avoir peur, juste aller vers la personne, la sauver, l'air de rien, parce que sinon, ça donne trop d'importance à l'agresseur. Si on commence à faire « Ah, arrête d'agresser », je veux dire, ça lui donne encore plus de sentiments de surpuissance. Mais juste d'aller casser ça, et de manière simple, c'est une chose d'entraide assez bien.
Natacha. Ça, je pense que c'est primordial parce qu'on ne peut pas recourir à la justice ou à la police pour chaque petit truc qui arrive. Et s'il y a de la solidarité entre personnes tout autour, ça casse les comportements. Mm-hmm. Ça casse vraiment les comportements. C'est vraiment là-dessus, à mon sens, qu'il faut travailler dans le futur pour que tout le monde ait l'impression de pouvoir faire quelque chose, d'avoir une espèce d'incapacitation, une agency, comme on dit en anglais.
Mm-hmm. Oui, puis en inversant tout ça, on peut changer le schéma. Maintenant, il y a des harceleurs qui veulent montrer qu'ils ont la toute-puissance sur le domaine public, ce qui fait que les femmes vont peut-être devoir changer leur habillement, changer leur trajet, changer leur façon de se comporter parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise et qu'elles ont peur de subir ces agressions. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, tous ensemble et tout ensemble, c'est que celui qui est honte, ce soit justement l'agresseur et le harceleur.
Ce serait pas mal, pas mal. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nous tous, hein, nous toutes et nous tous ici. Encore un dernier mot avant de te remercier. Et puis parce qu'effectivement, l'heure passe. Et puis Pierre, pareil, on aurait encore quelques mots concernant les jeux. Si tu as encore 5-10 petites minutes.
Oui, c'est possible.
Super, super. J'avais juste envie de te demander une réaction par rapport à ce court-métrage, film qui date un petit peu maintenant de Sophie Peters qui s'était filmée. Ah, tu l'as pas vu. D'accord. Alors, je n'ai rien dit. C'est en fait Sophie Peters, une jeune réalisatrice de 25-30 ans.
Ouais, j'ai vu juste un petit bout, mais je ne l'ai pas vu en entier. Du coup, d'accord. Je ne vais pas pouvoir.
Non, aucun problème. Non, c'était
mais
pour
c'était
savoir
quand
si
même
existait.
Assez flagrant.
Ouais, puis ici, parce qu'il y a eu d'autres exemples par la suite et je me demandais si ça avait été tenté en Suisse romande ou en Suisse quelque part, mais. Si quelqu'un a une idée par rapport à ça.
Peut-être Natacha. Que tu peux expliquer ce dont il s'agit, ouais. Parce que moi, je n'ai pas compris. Oui, donc, je pense que les auditeurs et les auditrices ouais, n'ont pas compris.
Merci, tu fais bien de me le dire. Oui, alors Sophie Peters, c'est une jeune réalisatrice qui a 25-30 ans, qui s'est baladée pendant une demi-journée ou une journée entière dans les rues, dans les différents quartiers de Bruxelles, dans une tenue neutre, je veux dire, une jupe sous les genoux, des bas, enfin, j'essaie de décrire un petit peu la personne, et elle était donc avec une GoPro, donc une de ces petites caméras embarquées, discrète, et elle a déambulé, elle enregistrait l'image et le son. Et il se trouve que, c'est assez dément de voir les réactions des gens, vraiment d'une virulence incroyable, et voilà, et elle traverse ces quartiers, et rares sont les endroits où il y a vraiment, où il n'y a pas une réaction au moins, et une agression, je veux dire, tout simplement. Et voilà, je me demandais si... Je sais que l'expérience a été faite, a été opérée également aux États-Unis, je ne sais plus exactement dans quelle ville, mais je me demandais si ça avait eu cours en Suisse romande ou en Suisse tout court. Mais voilà.
Alors, à ma connaissance, pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais peut-être que nous pourrions le faire. C'est une idée d'action aussi qui aiderait bien à montrer l'ampleur du phénomène et surtout à faire prendre conscience... à absolument. L'ensemble de la population. Ce qu'ils ont.
Alors, Sarah Klopman, merci beaucoup. On
merci,
rappelle que tu
merci
es, avec plaisir, que tu es élue au Grand Conseil élue verte au Grand Conseil à Genève. Que pourrait-on faire, que pourraient faire nos auditrices et nos auditeurs pour t'aider dans cette aventure de cette motion? Y aurait-il déjà des choses que l'on pourrait faire? Ou ça viendra peut-être dans un autre temps?
Pour m'aider dans l'aventure de cette motion, pas, mais par contre, pour aider toutes les victimes de harcèlement de rue, on en a parlé tout à l'heure, et j'aimerais que chacune et chacun puisse, chacune surtout dans le cas présent, mais puisse prendre conscience de ça et tenter d'aider.
Voilà. Et la question qui allait avec, c'est effectivement, toi-même, as-tu, là on en a cité quelques-unes, on va les reciter, mais as-tu en tête des structures d'aide que tu aimerais rapidement citer comme ceci pour les personnes qui nous écoutent ?
Alors, comme structure d'aide, bon, il y a plusieurs associations à Genève déjà pour toutes les questions LGBT. Et je pense que ce sont des espaces vraiment de discussion très intéressants qu'il ne faut pas négliger. Donc, tu l'as cité avant, l'Estime, évidemment, mais également Dialoguer, 360 aussi, qui est toujours disponible. À 360, il y a aussi plusieurs groupes, justement, de travail et de discussion, dont notamment le groupe trans, aussi le groupe homofamie. Et je pense que ça, c'est des choses que les gens ne doivent pas oublier et des endroits safe, justement, pour aller parler. Ensuite, au niveau plus de l'agression, on veut quelque chose de plus institutionnel, alors il y a la vie, centre d'aide aux victimes, qui est vraiment quelque chose de très important et un grand soutien pour les victimes. On a aussi Viol Secours, qui fait un travail magnifique, mais il y a F Information, il y a quand même vraiment un réseau d'associations bien implantées à Genève, et j'aimerais d'ailleurs profiter de cette occasion qui m'est donnée de remercier toutes les personnes qui s'investissent dans ces domaines. Et la marche des salopes aussi, je l'avais dit.
Et Slotok, absolument. Le refuge, on avait oublié de dialoguer, tu l'as dit, le refuge, bien
la
sûr.
La honte, en plus, j'en ai parlé hier soir avec
tes. Non, mais tu ne peux pas. Voilà, mais effectivement, il y a Totem, exactement.
LGBT Youth.
Exactement. Je vais juste dire, Viol Secours, effectivement, il voulait vraiment beaucoup, beaucoup venir ce soir. Malheureusement, c'est samedi soir, c'est un petit peu délicat. Mais voilà, en tout cas, qu'ils soient encouragés. On les encourage vraiment très, très fort. Merci beaucoup à toi.
Merci.
Et puis, à bientôt.
Bah oui, à bientôt. Ça marche. Merci.
Salut, ciao. Alors, on va faire une petite pause musicale tout de même. Et puis, si vous êtes d'accord, Pierre, on fait encore un petit tour sur le jeu, autour du jeu. Et puis, juste derrière, eh bien, on reviendra sur le programme de art et féminisme. Pour demain, dimanche 5 mars, on y va avec une petite pause musicale. On va écouter Tribal Summer Night with Samantha Emmanuel. Voilà, ce sera ça et c'est maintenant. C'est parti.